Bonjour, aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Fugue et Capot Diamant. Au programme, Charlie Morin, l'humoriste qui fait pleurer du sang aux homophobes. Archéologie québécoise, au bout des doigts. Et Gris Montréal, une campagne de levée de fonds réussie. Bonne écoute.
Charles Morin, l'humoriste qui fait pleurer du sang aux homophobes. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 28 avril 2023 dans le magazine Fugue. Après 4 saisons à co-animer le balado 2FXFS le matin, Charlie Morin poursuit sa carrière en humour avec la ferme volonté de rallier un auditoire composé de personnes queer et hétéros. Aussi divertissant que militant, il s'amuse à se décrire comme le pire cauchemar des homophobes. Pourquoi te décris-tu ainsi? Je suis une personne queer avec 2 mamans lesbiennes et je ris du fait que pour des homophobes, le fait que des homosexuels soient ensemble, c'est tolérable, mais qu'ils, elles, fassent des enfants homosexuels, ce serait la pire affaire. Au fond, leur crainte, c'est que les parents gays échouent ou foquent leurs enfants. Dans les années 90 et 2000, comment était-ce perçu d'avoir 2 mamans? Le plus gossant, c'était que tout le monde s'intéressait à ma famille, mais je n'arrivais pas à distinguer si c'était de la curiosité bienveillante ou non. Les gens avaient beaucoup de questions. On me demandait si j'étais correcte. Alors qu'on ne demande jamais à un enfant si elle est bien avec ses parents hétéros, même si plusieurs de leurs enfants ne sont pas bien. Comme enfant, je n'avais pas les mots pour dire que c'est « weird », que les gens présument que ça pourrait ne pas aller dans une famille parce qu'on a 2 mères. J'ai juste arrêté d'en parler parce que ça me faisait trop chier. Mais quand je n'en parlais pas, les gens présumaient que c'était parce que j'avais honte d'avoir 2 mères, alors que c'était en raison de leur indiscrétion et de leur maladresse. Comment tes mères te parlaient-elles de leur réalité homoparentale? Elles m'ont juste dit que j'étais un enfant super désiré, qu'elles étaient contentes de m'avoir et que les familles, en général, sont formées d'un papa et d'une maman, mais que moi, j'ai 2 mamans qui m'aiment égal. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. En quoi le fait d'avoir 2 mères lesbiennes a-t-il influencé ton rapport au monde? Ça t'ouvre l'esprit. Ça te fait comprendre des réalités autres que la tienne et ça te donne de l'empathie pour des situations différentes. Je pense aussi que, même si les pères ne sont pas tous pareils, le fait de ne pas avoir de figure patriarcale au quotidien, qui met son point sur la table ou qui met un point final aux conversations, ça flexibilise. En général, je sens que les mères ont plus d'écoute que les pères. Moi, j'en ai eu 2 qui m'écoutaient beaucoup. Aussi, ma sœur et moi avons grandi en voyant 2 femmes indépendantes qui s'organisent dans une maison, sans tâche préétablie en raison de leur genre. Ça fait qu'on a des personnalités moins cloisonnées dans des stéréotypes de genre. À quel point ta queerness nourrit-elle ton matériel en humour? Je veux me faire apprécier comme humoriste avant de l'être comme militant queer, parce que dans un numéro de 10 minutes, je ne vais pas faire changer d'idée quelqu'un qui a des biais homophobes. Dans un podcast comme 2FXFS le matin, où on expliquait des concepts de long en large, je pouvais le faire. Par contre, en humour, je peux te faire rire, ce qui, implicitement, te met de mon bord. Mon but est de rejoindre une vaste audience en montrant qu'on peut rire avec un homme gay qui a des références gays et que ça nous rejoigne. Dans mes numéros, je parle de ma famille homoparentale. J'aime rire des différences entre les gars gays et les gars hétéros, entre les filles straight et les lesbiennes. J'aime aussi attaquer des sujets un peu plus nichés, comme les coachs de séduction en ligne et leur masculinité toxique ou le pinkwashing de Justin Trudeau. Mes thèmes sont super queer. Quelle est la place des queers en humour au Québec? Je trouve que les publics et la scène changent vraiment. Il y a de plus en plus de queers qui font de l'humour. On a déconstruit l'idée que l'humour au Québec, c'était seulement une gang de gars straight et cis dans la cinquantaine qui pouvaient dire ce qu'ils voulaient en étant horribles. À Montréal et en région, il y a de plus en plus de publics avides de différents points de vue. Les pires foules sont celles composées d'une gang de dudes qui ne sont pas habitués à des propositions différentes, car ils sentent que s'ils rient avec toi, c'est comme s'ils s'associaient à toi, l'humoriste queer sur scène, plutôt qu'à leur gang de chums. Mais c'est extrêmement rare. Qui t'inspire parmi les artistes queer internationaux? Matteo Lane, c'est mon préf. Je veux que les gens comprennent que l'humour queer, c'est drôle. Il suffit de changer son cadre de référence et de trouver ça drôle. On ne leur demande rien de plus. Juste de rire avec nous. Matteo Lane est excellent là-dedans. Il est sans compromis. Il garde des références super gays en étant capable d'être delirious autant avec des humoristes queer que des humoristes straight. C'est ce à quoi j'aspire. C'était Charlie Morin, l'humoriste qui fait pleurer du sang aux homophobes, un texte de Samuel Larochelle paru le 28 avril 2023 dans le magazine Fugue.
L'archéologie québécoise au bout des doigts. Un texte de Marie-Michèle Dionne, paru dans le magazine Capodiamant, hiver 2022, le numéro 148. Des milliers d'objets, d'artefacts, de témoins précieux sortent de l'ombre des réserves et se rendent disponibles sur la toile. Accessibles à tous, archeolab.québec constitue une avancée remarquable dans la démocratisation de la connaissance. Qu'est-ce que l'archéologie? Fouiller le sol en quête de vestiges, découvrir de mystérieux artefacts qui révéleront leurs secrets grâce à des analyses diverses, comprendre les humains du passé, à partir de ce qui fut fabriqué, utilisé, puis abandonné. Au Québec, l'archéologie en tant que discipline scientifique émerge dans les années 1960 avec la Société d'archéologie préhistorique du Québec, fondée par des étudiants de l'Université de Montréal, et la création d'un service d'archéologie au ministère des Affaires culturelles du Québec. Dans les années 1970, les archéologues professionnels se regroupent et encadrent la profession avec la création de l'Association des archéologues du Québec. De plus, l'adoption de la loi sur les biens culturels ainsi que l'adhésion du Canada à la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, favoriseront la protection des sites archéologiques en tant que biens culturels. Des lieux de recherche, laboratoires et réserves d'archéologie du Québec, centres de conservation du Québec, des organismes de diffusion, parcs archéologiques de la Pointe du Buisson, Pointe à Calière, Archéo-Québec, voit le jour au cours des années 1980 et 1990. Enfin, la pratique archéologique actuelle au Québec est tributaire de la refonte de la loi provinciale sur le patrimoine culturel de 2012. Chaque année, ce sont des milliers d'objets provenant d'une variété de contextes archéologiques qui sont extraits des sols pour ensuite être traités, inventoriés, décrits, étudiés et analysés. Le parcours suivi par l'artefact vise à en extraire le maximum de données utiles à la compréhension du phénomène humain, puis à en assurer la conservation pour une éventuelle mise en valeur et pour les générations futures. Dans les faits, la très grande majorité des artefacts sont entreposés en réserve pour ne jamais en ressortir. À ce jour, plus de 6000 collections issues d'une dizaine de milliers de sites sont entreposées à travers la province. Qu'il s'agisse de la réserve du ministère de la Culture ou de celle des musées, une multitude d'objets demeurent inaccessibles au public et même, dans certains cas, aux chercheurs. En 2016, Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, et le ministère de la Culture et des Communications démarrent le projet Archéolab.Québec, la collection archéologique de référence du Québec. www.archeolab.Québec. L'objectif principal du projet consiste à créer une plateforme qui soit un carrefour de diffusion des collections et des connaissances archéologiques accumulées à ce jour, ainsi que de la discipline elle-même. De cette façon, la collection nationale ainsi que les collections d'une variété d'institutions partenaires sont rendues accessibles via une plateforme virtuelle aux multiples possibilités. Grâce à cette plateforme virtuelle, des milliers d'artefacts sortent enfin de l'ombre. En effet, la plupart des objets sélectionnés se trouvaient sur les tablettes des réserves depuis leur découverte. Beaucoup d'artefacts, jugés inintéressants pour une mise en valeur muséale, recèlent pourtant une grande valeur interprétative pour la recherche archéologique. En fait, l'archéologue s'attarde davantage aux caractéristiques intrinsèques de l'objet, matériaux, mode de fabrication, mode d'utilisation, technique et style décoratif, qu'à sa valeur esthétique. Il pourra donc accorder un plus grand intérêt à un tout petit fragment de céramique qu'à une belle assiette de porcelaine complète. Prenons l'exemple du site du Fort d'en haut, établi par Jacques Cartier et Jean-François de la Roque de Roberval, 1541-1543, situé à Cap-Rouge, où un tout petit fragment de plat en majolique italienne d'à peine 4 cm par 2 cm a permis de confirmer une présence européenne à cet endroit au 16e siècle. https://www.archeolab.quebec/recherche/object/211116. À ce jour, la collection archéologique de référence du Québec comporte 3377 artefacts documentés par les plus éminents spécialistes de la province. Chaque objet est accompagné d'une fiche technique détaillée permettant aux amateurs comme aux professionnels de comprendre sa valeur archéologique et de l'étudier. La constitution de ces fiches est confiée à des archéologues d'expérience qui sont spécialisés en culture matérielle ou sur un contexte archéologique spécifique. Il s'agit donc, en somme, d'une précieuse banque de données qui rassemble et transmet les connaissances cumulées depuis plus de 50 ans en archéologie québécoise. Via les différents corpus proposés, les artefacts racontent leur histoire et révèlent de quelle façon ils contribuent à notre compréhension de la paléo-histoire et de l'histoire. Ces corpus illustrent l'évolution et la variabilité typologique dans le temps et dans l'espace, bouteilles à boissons alcoolisées, céramique euro-américaine, céramique du sylvicole supérieur, pointe de projectiles, perles de verre, faïence, etc. Une thématique spécifique, archéologie de l'enfance, le paléo-indien, les Basques en Amérique du Nord, sur les traces de Champlain, etc. Ou encore une portion de la collection d'un site archéologique donné, le palais de l'intendant, quartier Robertval, fort de Ville-Marie. En plus d'être présentés dans les corpus, certains artefacts de la collection sont aussi mis en scène afin d'illustrer la séquence chronoculturelle propre au territoire québécois. Ainsi, la ligne du temps, https, deux points, double barre oblique, www.archeolab.québec, barre oblique, ligne au singulier, tiret, du, tiret, temps. Et archéobazar, https, double point, double barre oblique, www.archeolab.québec, barre oblique, archéobazar. Replace les artefacts dans leur contexte paléo-historique ou historique en fonction des grandes divisions temporelles et culturelles en vigueur. Il est à noter qu'archéobazar est d'abord conçu pour être utilisé dans l'enseignement de l'histoire au secondaire. En effet, un comité consultatif composé de professeurs et de professionnels en médiation culturelle a été sollicité afin d'en faire un outil qui soit adapté et complémentaire au programme pédagogique Univers social. Agrémenté de capsules audio et de petites animations ludiques, les fiches des artefacts présentées dans Archéobazar racontent l'histoire des premiers peuples et des Euro-Canadiens à partir de l'objet et de ce qu'il nous révèle. Au-delà de la collection de référence, archeolab.québec ouvre les portes des coulisses de la recherche archéologique. Qu'est-ce que la recherche nous apprend au juste? Comment faire parler les objets? Comment les documenter, les conserver? Quels sont les enjeux éthiques ou méthodologiques actuels? Une variété de capsules vidéo, de chroniques et de rubriques d'experts permettent à tous de mieux comprendre comment et pourquoi se pratique l'archéologie au Québec. Enfin, il est aussi possible de s'approprier la collection. Des listes personnalisées peuvent être constituées et sauvegardées dans un compte individuel. Pourquoi ne pas y rassembler les objets coup de cœur ou utiles à un travail de recherche? Chaque année, la collection d'artefacts et les contenus sont bonifiés afin de tendre à illustrer le plus fidèlement possible l'état de la pratique archéologique au Québec et la réalité matérielle témoignant de l'histoire de l'occupation humaine en territoire québécois. J'invite donc les curieux, les passionnés, les étudiants, les chercheurs et les professionnels à découvrir et à redécouvrir ce fascinant carrefour archéologique. C'était Archéologie québécoise, au bout des doigts, un texte de Marie-Michèle Dionne, paru dans le magazine Cap aux Diamants, hiver 2022, le numéro 148.
Gris Montréal, une campagne de levée de fonds réussie. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 1er mai 2023 dans le magazine Fugue. Cette saison, la campagne de levée de fonds du Gris Montréal s'est déroulée sous le thème « Des histoires partagées, des vies transformées ». L'objectif avait été fixé à 350 000 $, mais grâce à la générosité des donateurs et donatrices, on a si bien dépassé ce cap qu'on a atteint la coquette somme de plus de 372 804 $. Le Gris peut ainsi mieux respirer. Ces sommes serviront essentiellement à former des bénévoles, ce dont l'organisme a besoin de plus en plus pour répondre à la demande de sensibiliser les étudiants et étudiantes aux réalités des communautés LGBTQ+. Le Gris Montréal, comme on le sait, fait de la sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les écoles de la région métropolitaine et maintenant même au-delà. Évidemment, nous sommes très contents du résultat de cette campagne, dit Catherine Duclos, la présidente du conseil d'administration du Gris Montréal. On a eu du suspense jusqu'à la fin et on n'a eu qu'à la dernière minute le résultat de tous ces efforts. Souvent, c'est dans les derniers jours de la campagne que les choses bougent et que des gens ou entreprises se manifestent. Nous sommes très heureux que l'objectif ait été dépassé. Cette campagne annuelle est importante parce que seuls 15% du budget total de l'organisme proviennent de sources gouvernementales. C'est pour cela que la levée de fonds est le cœur de notre financement, ajoute Catherine Duclos. Face à toute la controverse entourant la prestation de drag queen auprès d'enfants dans les bibliothèques dans le cadre de l'heure du conte, Catherine Duclos réagit sans équivoque. Cela vient des préjugés qui courent en ce moment. Les enfants ne sont pas influencés par des drag queens et ne deviendront pas des LGBTQ+. On en parle comme si c'était un choix. Ce n'est pas un choix de vie. On voit bien avec cette situation-là la pertinence des ateliers de démystification du Gris dans les établissements scolaires. Il y a à peine quelques semaines, un autre jeune de 18 ans a été poignardé dans une école à Montréal. On constate de plus en plus d'incidents violents dans les écoles, poursuit la présidente du Gris. Avec nos ateliers, on cherche justement à faire reculer la haine, la polarisation, la violence, etc. Nos interventions aident à faire reculer les préjugés et contribuent à une société plus ouverte à la diversité. L'an passé, le Gris Montréal a rencontré plus de 22 400 jeunes lors de plus de 1000 ateliers. Et on pense qu'on va briser ce record cette année, renchérit Catherine Duclos. Mais voilà, si la demande d'ateliers est à un niveau égal ou supérieur d'avant la pandémie, les bénévoles qui interviennent dans les classes sont difficiles à trouver. La pandémie n'a pas été sans effet. Durant plus de 2 ans, on n'a pas pu former des bénévoles. Il y a toujours un grand bassin de personnes qui désirent faire les formations et, dans le processus, il y a des gens qui se rendent compte que ce n'est pas pour eux. D'autres n'ont pas la disponibilité nécessaire pour se présenter les jours de classe et donc manquer des journées de travail, etc. Et il faut dire qu'il nous faut toujours 2 bénévoles par intervention. Donc, ce n'est pas facile de recruter et de former des gens. Et c'est ce à quoi sert le financement en partie, explique-t-elle. Claude Marchand, le président de la campagne de financement 2022-2023 et président du groupe LCI Éducation, Collège La Salle, entre autres, souligne que c'est suite à la visite du Gris dans la classe de mon fils que j'ai été témoin de cette ouverture de dialogue que leur échange a permis. Et je souhaite la même chose à tous les jeunes. C'était la 2e année que Claude Marchand présidait le cabinet de campagne, qui a fait un travail exceptionnel d'aller chercher de nouveaux et nouvelles donateurs et donatrices, et ce, avec beaucoup de patience, indique Catherine Duclos. Cette année, 8 personnes faisaient partie de ce comité, incluant François Leclerc en tant que président émérite, après avoir présidé durant plusieurs années cette campagne de financement. Fidèles au poste, les deux porte-parole du groupe, Macha Limonchik et Vincent Bolduc, ont réaffirmé pour une 14e année leur soutien à la mission du GRI. La générosité des bénévoles qui se racontent en classe est formidable à voir. Leur bienveillance et leur authenticité permettent d'avoir un impact réel sur les jeunes dans les écoles. C'est pour ça que nous sommes si fiers d'être les porte-parole du GRI, ont-ils confié. Je tiens à remercier tous les donateurs et donatrices pour leur grande générosité en contribuant ainsi à notre campagne en vue de continuer notre mission pour faire une société plus inclusive, de terminer Catherine Duclos. Info 514-590-0016 ou gri.ca. C'était GRI Montréal, une campagne de levée de fonds réussie. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 1er mai 2023 dans le magazine Fugue.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.